vraiment heureux d'être là avec vous ce matin et de débuter cette série de prédications à la suite de notre jeûne et jeûne et prière qu'on a eu autour du thème citoyen du royaume des cieux. Vous savez que ce thème est basé sur le texte le plus connu et le plus cité même parmi les non-chrétiens. Alors je ne sais pas s'ils le comprennent toujours, mais c'est un texte qui est le plus cité. Vous savez où se situe le sermon sur la montagne, au moins depuis 3 jours, c'est Matthieu chapitre 5 à 7. Voilà. Et il se trouve que l'ancien président des États-Unis, qui s'appelle l'avant-dernier, n'est-ce pas? Non, excusez-moi, avant celui qui était bien embêtant là. Barack Obama, au milieu d'un discours de l'université de Georgetown, sur la politique économique, Barack Obama a dit, il a cité la fin du sermon sur la montagne, qui parle, vous savez, cette partie de la fin du chapitre 7 qui parle de deux hommes, et il a dit, nous ne pouvons pas construire cette économie sur le même tas de sable, nous devons construire notre maison sur un roc. Et d'ailleurs, les journalistes, je crois que c'est précisément cette phrase-là qu'ils ont retenue. Vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de cette petite parabole qui se situe dans le sermon sur la montagne. Il est parlé de l'un qui construit sur le roc et l'autre qui construit sur le sable. Le singe qui construit sur le roc, le fou sur le sable. Et il y a une petite chanson d'enfant qui nous le rappelle aussi. Et ils ont qualifié le discours d'Obama de sermon économique d'Obama sur la montagne. Imaginez. Bien avant cela, vous connaissez Gandhi, qui était un avocat, un célèbre avocat indien, aussi un nationaliste anticolonial, et aussi une sorte d'éthicien, c'est-à-dire qui prônait l'éthique, la bonne attitude, la juste attitude, un chantre, n'est-ce pas, de la non-violence, qui a fait tout un travail pour l'indépendance de son peuple indien par rapport à la puissance, à la domination britannique. Voilà ce qu'il dit. Alors, ce n'est pas du tout un chrétien, c'est un hindou. On est d'accord? Mais voilà ce qu'il dit. Quand j'arrivais au Nouveau Testament et au sermon sur la montagne, je commençais à comprendre l'enseignement de Christ, j'espère, et le message du sermon sur la montagne fit écho en quelque chose que j'avais appris dans mon enfance. Cet enseignement, ce n'était pas de se venger et de ne pas rendre le mal pour le mal. Donc le sermon sur la montagne, même quand on n'est pas chrétien, beaucoup le connaissent. Est-ce qu'on le comprend? Je ne sais pas, mais beaucoup le connaissent. Et ma question, c'est même, nous en tant que chrétiens, est-ce que nous le comprenons? Nous le connaissons aussi. On peut en citer plusieurs choses. Nous connaissons, n'est-ce pas, notre Père. Nous connaissons le fait de ne pas attendre, n'est-ce pas, l'autre jour. Les expressions sel de la terre, les expressions lumière du monde, quand il est dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Nous connaissons ça, la paille et la poutre, n'est-ce pas, dans l'œil, hein, on connaît ça, et puis cette règle d'or, hein, qu'il nous faut vraiment, qui est faite pour les autres, ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Alors, si le sermon sur la montagne est connu, c'est sûrement parce que Jésus, et c'est ce qui est assez extraordinaire, a regroupé tout un tas d'enseignements capitaux pour la vie du croyant. Le sermon sur la montagne nous montre ce qu'est la vie dans le royaume. C'est pour ça que le thème que nous avons choisi, c'est citoyen du royaume. Citoyen du royaume. J'ai envie de te poser la question ce matin. Es-tu un citoyen du royaume? Le citoyen du royaume, c'est celui qui a choisi de démarrer une nouvelle vie avec Christ. Mais quand on parle du royaume, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Cette nouvelle vie implique que toi, que moi, qui un jour est passé par la repentance, qui un jour a choisi d'appartenir à Christ, où il y a eu ce 180 degrés, n'est-ce pas, implique que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une autre façon d'exprimer ce qu'est l'Évangile. Une autre façon d'exprimer, et quand je dis une autre façon, je suis bien, comment dire, malin de le dire, mais surtout que quand Jésus parle de l'Évangile, il dit que le royaume de Dieu s'est approché. Oh, le royaume de Dieu s'est approché. N'est-ce pas? On va voir ça aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est qui dit royaume dit qu'il y a un roi. On est d'accord? C'est Dieu qui règne sur son peuple et sur la terre. Trois choses. C'est Dieu qui règne sur son peuple et sur la terre. C'est Dieu qui règne souverain absolu. C'est Dieu qui règne en maître de l'univers. C'est Dieu qui règne comme tout puissant. Et il règne où? Il règne notamment dans son peuple, sur son peuple. Et la question de savoir s'il est roi et maître de chacun de nos cœurs en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut régner en chacun de nos cœurs et Dieu veut déployer sa royauté dans chacune de nos vies et chaque jour un peu plus. Amen. Et il règne sur la terre. Ça veut dire que cœur après cœur, âme après âme, son règne vient, son règne sur la terre avance jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus vienne régner pour renouveler toutes choses. Alléluia! Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Alors voici comment le royaume de Dieu veut se manifester et va se manifester et se manifeste déjà. Alors, je vous ai expliqué ce qu'est le royaume de Dieu là en quelques mots, mais franchement, ne limitons pas Dieu. En lisant un commentaire, le commentaire disait, ok, on va essayer de décrire ce qu'est le royaume de Dieu, mais je crois que, et je suis d'accord avec le commentateur, le royaume de Dieu est encore plus vaste que ce qu'on peut le comprendre. Amen. Que ces quelques explications, j'ai essayé d'être très court, parce que vous allez comprendre pourquoi et sur quoi je veux qu'on puisse se fixer aujourd'hui. Ce royaume de Dieu, vous savez, qui dit royaume dit loi dans le royaume de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ceux qui citent, alors je vais donner que deux exemples, plusieurs personnes citent et nous-mêmes nous pourrions citer, mais la question c'est, est-ce que nous reconnaissons le roi? C'est une chose d'appliquer les principes, mais est-ce que nous reconnaissons le roi? Et général dit que c'est là où est le problème. Mais je crois que le chrétien, lui, peut dire, comme il est dit dans le serment sur la montagne, précisément dans la prière de notre Père, que ton règne vienne. Et j'aimerais te dire, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, veux-tu du règne de Dieu dans ta vie? Veux-tu du règne de Dieu dans l'église? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans notre monde et même dans notre île, il y a beaucoup d'églises, mais peu de changements. Dites-moi en quoi la présence d'églises qui se multiplient dans notre île, et qui bon, se disent parfois, c'est vrai, mais se multiplient, change quelque chose. La violence augmente. Les familles sont déstructurées, les enfants sont déséquilibrés, et parfois même dans l'église, on revoit malheureusement les mêmes choses, et l'église, parfois, par ses membres, peine à marquer la différence. Beaucoup d'églises et si peu de changements. Beaucoup de personnes qui se réunissent dimanche après dimanche, année après année, décennie après décennie, beaucoup d'églises et peu de changements. Pourquoi? Je crois que nous avons besoin de faire cette prière en comprenant ce que nous disons. Vous savez, certains répètent le Notre Père, mais ces quelques mots-là, que ton règne vienne, doit faire toute la différence. Doit montrer qui est le roi de nos vies. Je crois que si ça se passe ainsi, c'est que nous n'avons pas encore compris ou accepté ni enclenché ce que je vais appeler ici la clé du royaume. Ils ont la clé pour payer démarrer l'auto. Ils ont la clé pour entrer. Si on appelle la clé, il y a un problème. La clé du royaume, comme nous le dit Jésus, et ne fait que répéter, n'est-ce pas, le précurseur de Jésus, ce que dit Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, le verset 2, et il le dit avant de manifester ce qu'est précisément le royaume par des miracles et par des délivrances, et avant aussi de donner le serment sur la montagne, à partir de Matthieu chapitre 5, mais dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, il est dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux, dans Matthieu, est proche. La clé du royaume, c'est la repentance. Beaucoup d'églises, peu de changements, parce que la clé du royaume n'est pas souvent activée. Peut-être à certains moments, mais trop peu, me semble-t-il. Dis à ton voisin, active la clé du royaume par la repentance. Si tu crois à ce que tu dis, bien sûr. J'aimerais qu'ici, au centre évangélique de Dumaine, et c'est mon rêve, et c'est mon aspiration, et c'est ce que sur mon cœur, que nous soyons une famille d'accueil. Une famille d'accueil spirituel, qui a pour vocation de recevoir tous les orphelins spirituels, qui se sentent abandonnés par la vie. Que chacun se sente à l'aise pour dire sans honte, oui, c'est vrai, je suis enchaîné par quelque chose et je veux changer de vie en adoptant le regard de Dieu. Je voudrais qu'ici soit un lieu d'accueil spirituel, un lieu sans jugement, un lieu d'amour, un lieu où on permet aux uns, aux autres, au-delà et qui n'ont peut-être au cœur pas encore évangélique, n'est-ce pas, d'être reçus avec un. D'être reçu avec moi au point de dire là j'en peux plus, au point de dire la vérité, sans être jugé. Que chacun puisse oser apporter sa vie, peut-être toute cassée, et la déposer au pied de la croix pour avoir le point de vue du ciel. Le citoyen du royaume, n'est-ce pas? Que chacun puisse sans honte, et je parle aussi des chrétiens, et vous savez, il y a un phénomène qu'on appelle, je ne suis pas assez bon en anglais, mais this churching. En fait, ce sont des gens qui ont certainement grandi à l'église, peut-être, ils ont passé tout le cursus, on va dire, pas comme ça, et puis, par rapport au Covid, ou même avant le Covid, ils vont à l'église. Et c'est un phénomène dont les théologiens, les pasteurs américains commencent vraiment à étudier et à observer. Mais j'aimerais que notre église, comme toutes les églises d'ailleurs, soit le lieu où on puisse dire sans honte ce qui ne va pas. Et qu'on puisse tous s'accompagner pour le meilleur. Qu'on ne puisse pas avoir notre vernis, n'est-ce pas, évangélique, avec toutes nos habitudes. Et puis derrière, on observe qu'on n'avance pas, on ne progresse pas. Parce qu'on ne sait pas se dire la vérité. Parce qu'on a peur d'être jugé. Que Dieu nous aide à casser la religiosité. Alors, prions que notre église soit un lieu où personne n'a honte de se repentir. Parce que la repentance est la clé du royaume des cieux. Sans repentance, tout ça nous fait panique. Et c'est dur de constater ça. Beaucoup d'églises et si peu de changements. On a besoin de repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. J'ai une question à te poser. Ton dernier bilan de santé remonte à quand? Peut-être pas très longtemps, pour bon nombre d'entre vous. Et d'autres ne s'en souviennent plus. Moi, je reconnais que il y a une ordonnance, j'ai demandé l'ordonnance, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais il y a 4 à 5 ans de ça, j'ai demandé à mon médecin une ordonnance pour mon bilan de santé, et il m'a dit, ok, d'accord, pas de souci, je vais chercher à savoir votre taux de PSA. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, au beau milieu de la trentaine, vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ça m'a un peu étonné. Et un jour, je ne sais pas, on discutait un peu avec les collègues pasteurs, tous plus âgés, et pour le coup, eux, ils parlaient de leur PSA. Et moi, j'ai dit, justement, j'ai fait un test, ils m'ont tous regardé avec de gros yeux. Ah, c'est pour la prostate, voilà, pour ceux qui savent pas. Pourquoi on fait un bilan de santé? Le bilan est utile pour trouver l'organe, la partie de ton corps qui est faible, qui a besoin de soins, qui a besoin de changement. Et c'est pour ça qu'on va faire un bilan régulier pour savoir là où il y a un petit souci. Et c'est ce que fait le sermon sur la montagne. Si nous allons prendre le temps de l'étudier, nous allons déjà prier. Alors, pour ceux qui ont prié, vous avez vu combien il y avait beaucoup de sujets, parce qu'on a fait un condensé en 3 jours. Mais maintenant, on va détailler tout cela, n'est-ce pas? On va détailler tout cela. Et ces sujets-là, on va voir, enfin, je vais vous les renvoyer. En tout cas, il y aura aussi des méditations, 2 à 3 méditations par semaine. Parce que j'ai vu que pour le mois de juillet, chaque jour une méditation, je ne suis pas sûr que tout le monde a fait des méditations. Mais certains ont dit oui. Mais on va avoir 2 ou 3 méditations par semaine. Et puis, nous aurons aussi des prédications le dimanche avec nos frères prédicateurs. Et puis, parfois, dans les soirées du jeudi aussi, alors on va en prier pour ça le mardi, mais dans les soirées du jeudi aussi, certaines thématiques auront un lien avec le sermon sur la montagne parce qu'il aborde beaucoup de sujets, le sermon sur la montagne. Amen. Alors, ne nous laissez pas tout seuls le jeudi soir. Amen. Il y avait les vacances, donc forcément, les vents étaient vides. Soit. Mais on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et puis je crois que nous nous aimons suffisamment pour faire du covoiturage. Amen. Je vais même mettre le frère Fernand à contribution. Donc, il faut venir. Ok? Non, c'est vraiment important. Pour notre église et savoir où on va, vous savez, on a un grand défi là-haut. Un grand défi, cette construction. C'est pour ça que n'hésitez pas, même le dimanche matin, à inviter du monde. Ok? Et n'hésitez pas aussi le jeudi soir. Je vais vous envoyer les thématiques ici ce soir. Mais n'hésitez pas. Je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas, avec les prédicateurs et tout, on essaie de travailler pour que les thématiques soient abordées. Je remercie encore la liste qui a été faite. Et puis pendant ces 2 mois-là, non seulement on va travailler sur le sermon sur la montagne, mais on va aussi répondre à chacune de vos questions. Le sermon sur la montagne, revenons sinon on est là pour je ne sais pas quelle heure. Dans le sermon sur la montagne, nous avons trouvé exactement les domaines dans lesquels nous sommes faibles. Tu as besoin de ton bilan de santé pour savoir là où il y a une faiblesse, pour pouvoir travailler sur cette faiblesse. Eh bien, c'est ce que fait le sermon sur la montagne. Il y a tout un tas de sujets qui sont donnés pour voir là où tu as besoin d'y travailler, là où tu as besoin de te repentir, là où il y a besoin de changement. Et ce sermon sur la montagne, on peut dire que c'est un check-up. Là où tu as besoin de voir Jésus comme roi, là où tu as besoin de laisser Jésus devenir ton roi. Parce que là où Jésus devient le roi, c'est son royaume. C'est son royaume qui est à l'œuvre. Et Jésus veut étendre le royaume des cieux en toi, en moi, dans chacun des domaines qui te concernent, qui me concernent. Et partout où le roi règne, c'est là où se trouve son royaume. Amen. Comme je l'ai déjà dit, dans ce monde, on désire l'éthique de la morale, du royaume, du serment, mais on ne désire pas le roi sur le royaume. C'est-à-dire qu'on va développer toutes sortes de choses autour du développement personnel, des capacités insoupçonnées de l'homme, du pouvoir de l'homme à faire le bien. Mais il y a un problème. Tant qu'on ne reconnaît pas le roi, on ne peut pas appliquer le royaume. Tant qu'on n'est pas touché par la grâce du roi, on ne peut pas appliquer. Et moi, j'aimerais te dire que si le Saint-Esprit est en toi, si tu as choisi d'appartenir à Christ, tu as tout ce qu'il faut pour appliquer la morale, si tu veux, l'éthique élevée du sermon sur la montagne. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, revenons à notre texte, Matthieu chapitre 4. Ici, juste après ce que Jésus ait annoncé cela, on se rend compte que, on va parler de quatre hommes. Vous avez vu de quel homme on parle ici? Il s'agit dans un premier temps de Simon, il s'agit d'André, son frère, et puis ensuite de deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ces quatre hommes, quatre pêcheurs, étaient concentrés sur leur tâche. Soit en lançant des filets, soit en confectionnant, en réparant leur filet. Et le texte dit qu'ils ont vécu un changement complet, une transformation complète. La Bible dit que le royaume des cieux s'est approché d'eux et Jésus leur a lancé un appel et ils n'ont pas fait ni homme ni dé. Ils ont abandonné leur filet, le fruit de leur travail, leur expérience de vie. J'allais dire en une fraction de seconde, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais en tout cas, on a l'impression que la parole de Dieu, ils ont abandonné leur filet d'un coup. Ils ont vécu un changement radical. Des pêcheurs, ils passeront à des pêcheurs. Ils ont choisi de quitter leur père, leur famille, leur filet, leur matériel. Changement complet. Et moi, j'ai répété cette petite phrase. Beaucoup d'églises et si peu de changements. Quand on active la clé du royaume, à savoir la repentance, tout doit changer dans nos vies, je crois. Et je crois que bien souvent, nous n'avons pas compris ce qu'est le sens de la repentance. Et pour la suite de cette prédication, j'aimerais me concentrer juste, on verra le caractère du citoyen du royaume de Dieu la semaine prochaine, en essayant de détailler, en tout cas dans le temps que nous aurons les béatitudes. Mais pour l'instant, il est important que nous puissions chacun activer cette clé du royaume. Autrement, on va entendre beaucoup de choses et on ne va pas bouger. Et j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le sens de la repentance. Parfois, on a l'idée de ce qu'est la repentance. On voit le prédicateur de feu qui fait un appel. Et quand ils ont fait l'appel, les gens se lèvent, ils sont en pleurs. Et puis ils arrivent et puis on dit, c'est ça la repentance. La repentance, chers frères et sœurs, c'est bien plus que le temps de l'appel.
Amen.
Et quand je vois cet appel de Jésus, quand je vois ces quatre hommes, à l'instant même, leur perspective de vie a complètement changé, n'est-ce pas ce que le royaume fait dans la vie de quelqu'un? Une nouvelle perspective qui s'ouvre de pécheurs qui sont passés à pécheurs. Où est la vie du royaume en toi? Est-ce que tu prends le temps d'activer régulièrement la clé du royaume, à savoir la repentance dans ta vie? Quand on continue sur ce texte-là, on se rencontre au verset 24. Le royaume est déjà là, le royaume est déjà là, oui. Quand Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi les peuples, sa renommée se répandit dans toute la Samarie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergents, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le ciel est descendu sur la terre, guérison, délivrance. Et juste après, au chapitre 5, le Seigneur va nous montrer c'est quoi être un citoyen du royaume des cieux à travers le sermon sur la montagne. Mais il avait déjà dit avant, oh, repentez-vous. Je crois qu'il est bon de revisiter ce sens. Je tiens à dire tout d'abord qu'il me semble qu'il y a une mauvaise compréhension de la repentance. Parce que quand on parle, surtout par rapport à ce passage-là, Matthieu 4, 17, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et je crois qu'à un certain moment donné, on a compris « Le royaume des cieux est proche. » On a compris « La fin est proche. » En gros, fais vite. Mets-toi en règle et pitié. Bon Dieu, parce que quelqu'un vivait et par ça, vous êtes mort. Et donc, ce qui fait que c'est peut-être la peur qui nous fait qu'on a choisi d'appartenir au Seigneur. Mais j'ai envie de te dire, rentrer dans le royaume, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus d'avoir peur et de dire, oh, moi sauvé, le Seigneur te fait rentrer dans quelque chose de nouveau. Amen.
Amen.
C'est pas juste une place au ciel. Non, dès maintenant, tu prépares ton éternité avec une nouvelle perspective de vie, avec une nouvelle manière de voir tes relations et tout ce que tu fais au quotidien. Parce que le Saint-Esprit veut être tout présent avec toi dans chacune de tes réalités. Et ô combien nous en avons besoin dans cette nouvelle période. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Vous ne savez pas quels défis vous allez rencontrer avec vos enfants, avec votre famille, avec, comment dire, avec votre travail. Vous avez besoin de vivre et d'entrer et de rester dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Jean-Baptiste et Jésus prêchaient la repentance non pas parce que la fin était proche, mais parce que le royaume des cieux était. Nous sommes citoyens du royaume des cieux et nous vivons déjà en quelque part le ciel qui n'est pas encore totalement là. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le déjà et le... Alléluia. Donc dans le déjà, nous pouvons vivre des bénédictions de l'Éternel et nous avons à les activer par la prière, nous avons à les activer dans notre façon de vivre au quotidien. Et parfois, effectivement, comme le frère disait, on ne voit pas tout encore parce que le pas encore, Christ viendra, mais déjà, il faut vous préparer l'éternité à la manière de la vie. Je disais en accompagnement pastoral cette semaine à quelqu'un de dire, mais quand on sort au ciel, pas vous dormir, non? Dieu, quand il a créé la terre sans péché, n'est-ce pas? Avant que le péché ne fasse irruption, il avait dit, n'est-ce pas, remplissez la terre. Et il avait dit de quelque part dominer la terre. Donc il y avait du travail sur cette terre. Le travail ne vient pas après le péché. Par contre, le travail est devenu pénible après le péché, c'est vrai. Hein? Et donc ce qui fait qu'on peut largement imaginer que tout ce que nous faisons, avec les dons, les capacités que Dieu nous a données. Et nous allons continuer à les faire, mais dans un monde où il n'y a pas de péché. Dans un nouveau ciel, dans une nouvelle terre. Donc d'où le fait que nous devons commencer à faire ce que nous faisons maintenant de la meilleure manière qui soit à la gloire de Dieu le Père, parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Et j'aimerais expliquer ce qu'est la repentance ce matin. Et cela avec cinq verbes. Je ne sais pas quelle heure il est. Cinq verbes. Voilà. C'est embêtant. Cinq verbes. Mais je vais aller rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Mais c'est cinq verbes qui expliquent ce qu'est le citoyen du royaume. Le premier verbe, c'est constater. Le deuxième verbe, c'est cesser. Le troisième, confesser. Quatrième, changer. Le cinquième et le dernier, croître. Est-ce que vous les avez? On reprend. Constater, cesser, confesser, changer et croître. Amen. Pour vivre la repentance, il faut commencer par voir quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi, chez moi. C'est une prise de conscience dont on a besoin. Et parce que tout simplement, on voit qu'on a besoin de vivre autre chose. On a besoin d'aller plus loin. Parce que tout simplement, nous sommes arrivés au bout. On savait que c'était un péché. On savait que ça ne nous menait à rien. Mais à un moment donné, on se rend compte que non seulement ça ne nous mène à rien, mais que ça nous met dans un trou. Et que le trou, on continue à le creuser. Et on a fait le constat que le péché nous mène tout droit vers une lente autodestruction. Et je pense à David, dans 2 Samuel chapitre 12, qui a eu à faire ce constat, et presque il s'en est pris à l'homme dont Nathan, le prophète Nathan parlait, il presque était en colère contre son homme Talam, mais qui manière. Et c'est là, il voit que c'était lui en fait. Il y a une prise de conscience à avoir. Le deuxième fils de la parabole, alors que j'aime appeler la parabole des deux fils, qu'on appelle plus communément dans Luc chapitre 15, le fils prodigue, il est dit qu'il a réfléchi en lui-même, il a été là et puis ses cochons, il a été là et puis il a tout ça, il a dit, il a tout l'argent, il est dilapidé parce qu'il n'a pas été de la famille, donc il fait n'importe qui ça. Et il se rend compte qu'il y a un problème. Et il dit, Luc 15, verset 17, « Je meurs de faim. » prise de conscience. Je constate qu'il y a un problème. Et j'aimerais te dire, cher frère, chère sœur, la repentance commence par ça. Et si ton constat, c'est bon, comme ça, bon, on peut aller, ou qu'elle continue, rien n'a pas changé. Et je crois que dans cette nouvelle période, nous avons besoin de faire un constat sérieux de notre vie. Pour savoir, et un constat aussi de l'Église, mais ça reviendra. Mais on a besoin de faire un constat sérieux de notre vie, de notre Église, de ce que l'on domine, de nous-mêmes, du moins, de notre vie, de là où nous en sommes. Les quatre hommes dans Matthieu 4 dont nous avons parlé, eux aussi, ont probablement dû faire un constat et être confrontés à leur péché parce qu'ils ont compris qu'il fallait que ça change. Le constat intervient quand on se rend compte que si on continue dans la même direction, absolument rien ne va se faire et on va couler. Quand on arrête de se donner aussi des excuses, quand on reconnaît qu'on a un problème, quand on avoue qu'on a besoin d'aide, quand on veut quelque chose de meilleur pour sa vie, la repentance commence. Par le constat. Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, constate. Un citoyen du royaume des cieux est passé par une vraie repentance. Qui l'amène tout d'abord à avoir le constat d'une vie qui est en désordre, d'une vie où il y a quelque chose qui ne va pas. Un constat. Le deuxième C, c'est cesser. Constater. C'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut cesser. Il faut arrêter. Il ne faut pas se contenter de s'appuyer sur son sort. M'en fait arriver. Ah non, ça n'est pas vrai. M'en fait pas. Non. C'est une intelligence spirituelle que Dieu nous donne pour que nous puissions dire là, maintenant, j'ai compris, j'arrête. Quelqu'un qui a du mal avec l'argent et qui dépense son argent à tout va, et puis qui demande toujours. Moi, j'en connais. Et qui se balade toutes les semaines à la galerie. Et qui continue à faire des crédits. Il y a un problème. Malheureusement, l'exemple que je donne n'est pas forcément faux. Quelqu'un qui dit, j'ai un problème avec l'addiction de la pornographie, mais qui garde toujours son téléphone près de lui la nuit, sans aucun logiciel de responsabilisation. Quelqu'un qui dit « Je suis toujours en train de croire que je ne vaux rien » avec le sort du syndrome de l'imposteur, mais qui continue à nourrir de mauvaises pensées. Quelqu'un qui dit « Je devrais faire attention à mes relations avec les femmes. Je ne veux pas perdre ma femme. » Mais qui ne prend pas soin de son couple et continue à entretenir des relations avec d'autres femmes. Quelqu'un qui dit « J'ai tort de m'éloigner de l'Église. » Et je suis en train de mourir spirituellement, mais en gardant les rancunes, les blessures, et qui vit dans le regret, tout seul dans son coin. Quelqu'un qui sait, qui est enclin à exploser de colère du moins, et qui voit bien les autres autour de lui s'éloigner, mais qui continue à faire mal avec ses parents. Quelqu'un qui voit sa vie spirituelle décliner, mais qui continue à s'éloigner de Dieu, en ne priant pas, en ne cherchant pas Dieu. Et puis avec des regrets, ah oui, le premier amour, après, c'était différent, c'était... La Bible dit cesser, n'est-ce pas? Dire stop, arrêter, c'est la possibilité que nous avons pour que les choses bougent. Si dans chacun des exemples que j'ai donnés, il n'y a pas un coup d'arrêt, il n'y aura aussi aucune transformation. Et vous savez, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu sur Internet, on parle de forme d'éducation où on ne veut surtout pas frustrer l'enfant. Parce qu'il faut que tout soit là pour l'aider à grandir. Mais moi, je suis désolé, hein. Ma petite Emma, parfois, elle va chercher nos livres. Et je lui dis, non, tu ne touches pas aux livres. Alors elle s'arrête, elle s'assied, et puis elle commence à papiller. C'est comme ça. Voilà. Mais blague à part, même s'il faut veiller effectivement à l'équilibre émotionnel de nos enfants et à jamais les rabaisser, à jamais les humilier, mais il faut leur donner les moyens de comprendre les contraintes dans la vie, n'est-ce pas? Et quand je dis ici cesser, il y a un moment donné il faut dire stop, il y a un moment donné il faut se faire violence, à un moment donné il faut arrêter, et c'est indispensable. Le deuxième fils dans la parabole du fils prodigue dit « je me lèverai », c'est-à-dire « j'arrête ce que je fais pour retourner vers mon père ». Et les quatre pécheurs ont dû quitter aussi leur filet, abandonner leur macaire, laisser leur gagne-pain. Dis à ton voisin, arrête. Pour vivre la repentance, il y a quelque chose à arrêter, à cesser et à abandonner. Le citoyen de l'âme des cieux est passé par une vraie repentance. C'est celui qui a choisi de cesser d'arrêter quelque chose. Je ne sais pas, pour cette nouvelle période, qu'est-ce que tu dois arrêter. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Le troisième C, c'est confesser. Le deuxième fils, toujours dans la parabole du fils prodigue, a dit « Je vais aller chez mon père et je lui dirai « J'ai péché contre toi ». Oui, j'ai péché. Et panique, pièce esquisse. Parce qu'il contre la gère, il fait rien qu'il est épis. Il panique, pièce esquisse. C'est le bagage, il dit « J'ai péché contre toi ». Des fois, ça a du mal à sortir, hein, n'est-ce pas? Et quand David était face à Nathan, confronté à son péché, il n'avait aucune excuse à donner. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. La vraie repentance n'essaye pas de se justifier, ou d'excuser, ou de s'excuser, enfin bref. La vraie repentance dit simplement, je suis pécheur et j'ai besoin d'aide. Je suis pécheur et j'ai besoin d'aide. Et la repentance ne correspond pas. Il n'est pas juste pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, hein, et qui viendrait pour une fois dans notre église. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Il y a tellement d'endroits. La méditation que nous aurons sur le sermon sur le matin va nous le rappeler. Il y a tellement d'endroits où nous avons besoin de nous repentir. Et souvent, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu parce que nous n'avons pas fait le choix de la repentance régulière. La vraie repentance ne dit pas c'est la faute de mon passé. La vraie repentance ne dit pas c'est la faute de mes passants, de mes parents, de mon héritage. La vraie repentance ne dit pas c'est la faute de mes professeurs, de mon patron, du gouvernement, de la société, enfin bref. La vraie repentance ne dit pas non plus c'est la faute de mon époux, c'est la faute de mon épouse. Ou tout autre moyen de se justifier. La vraie repentance, c'est tout simplement comprendre ce qui est en train de détruire petit à petit notre santé spirituelle et qui est en train d'attrister le Saint-Esprit. Pas d'excuse, juste un cri. Juste, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'y arrive pas. J'aimerais te dire, dans ce troisième C, la confession, on a besoin de verbaliser. C'est pour ça que je disais que j'aurais aimé que nous, en tant qu'Église, nous soyons un lieu où, sans honte, nous puissions dire la vérité. Et que nous puissions nous accompagner les uns les autres à aller plus loin. Tu as besoin de verbaliser. Quand, moi je le dis hein, en tant que conseiller conjugal et familial, le fait de dire quelque chose, le fait d'exprimer, c'est une manière de mettre à distance. Et quand on met à distance, on peut mieux gérer la chose. Et qui plus est, quand on le dit à Dieu, le Seigneur nous dit, oui, c'est possible. Tu as ta délivrance. Oui, tu avances. Ouvrir sa bouche fait partie de la repentance. Exprimer avec des mots. Parfois, nous pas dit, bon Dieu, hé, pardon, pardon, tout ça va faire, tout ça va. Et qui s'en fait? Qui s'en fait, pardon? C'est pas vrai? On est global avec le Seigneur, et puis, comme disait ma mère, mettez à terre, on fait trier, je ne sais plus comment elle disait ça. En gros, peut-être que le Seigneur va voir ce qu'il y avait dedans. Non. Soyons précis. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire avec mes notes tout à l'heure, mais quand on regarde Jean-Baptiste a été précis. Déjà, il aura dit clairement race de vipère, quand même, voilà, bonne entrée en matière pour partager le message, n'est-ce pas, pour être en contact avec son auditoire. Je ne sais pas, je vais essayer un de ces jours. Il a été radical. Et puis, ce qui est formidable dans Luc chapitre 3, c'est qu'il a, pointé des péchés, mais ceux qui étaient là avec lui étaient tellement attentifs, à savoir la foule qui était là, à savoir des militaires qui étaient là, à savoir des publicains qui étaient là, et ils ont dit, mais que devons-nous faire? Et précisément, il leur a dit, là, vous devez vous repentir. Et peut-être que tu dois donner la chemise supplémentaire que tu as. Pourquoi tu gardes la chemise? Hein? Et puis, peut-être aussi que toi, là, quand tu passes là, arrête de prendre l'argent pour toi, là. Contente-toi de ton salaire. Et il a dit la même chose aux militaires. Amen.
Amen.
Amen. Donc, la repentance, elle est précise. De quoi il s'agit? De quoi tu te repens ce matin? De quoi? Qu'est-ce qui doit bouger en ce matin? Comment le Seigneur veut t'interpeller en ce matin? Alors, dis à ton voisin, confesse. Un citoyen doit être déçu et passer par une vraie repentance qui exprime verbalement son péché sans aucune excuse. Amen. Alors, le quatrième C, c'est quoi?
Changer.
Constater, cesser, confesser et aussi changer. Les quatre pécheurs de Matthieu 15 ont abandonné leur filet pour suivre Jésus et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle perspective de vie pour ces quatre hommes a commencé. Et clairement, les choses ont changé du tout au tout avec eux, pour eux. Et quand on regarde aussi pour le deuxième fils, le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, on a dit tout à l'heure, il a dit « je meurs de faim », il a constaté « je me lèverai », il a cessé, il a arrêté. Et il a dit aussi « je dirai à mon père que j'ai péché contre toi », mais il a dit aussi « je dirai vers mon père et je lui dirai « traite-moi comme un de tes ouvriers ». Il a arrêté ce qu'il fait et il est très prêt à changer son quotidien pour être au service de son père alors que lui-même était normalement un des maîtres. Il bouge pour servir son père comme un simple serviteur. Il se met en mouvement. La repentance n'est jamais authentique si elle n'est pas accompagnée d'un changement. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on a cette image vraiment des prédicateurs de feu qui viennent et puis tout le monde pleure et puis tout le monde... Ce n'est que le début. Et puis, peut-être même, des fois, il n'y a pas forcément le prédicateur de feu, mais le feu est là. Amen. Voilà. Un changement de direction. Une séparation entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. Une séparation entre toi et la source de ton problème. La source de ce qui t'emmène à aller et à continuer à pécher. Si tu restes avec la source de ton problème, rien ne va changer. La repentance demande de fuir. La repentance demande de couper, dans le serment sur la montagne, la main droite. Vous allez le dire dans quelques jours, n'est-ce pas? De retirer l'œil droit aussi. Ça aussi, ça a aidé. La repentance exige de changement. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Baptiste n'a pas fait ni on d'idée, Kabayo Bagayla, en manière radicale. Alors, la question pour toi ce matin, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois arrêter? Qu'est-ce que tu dois développer? Qu'est-ce que tu dois changer? Quelle est comment dire? S'il y a quelque chose que tu dois arrêter là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, la nature a horreur du virus. Et quand Dieu nous a sauvés, ce n'est pas simplement pour arrêter toutes les mauvaises choses qu'on faisait, c'est pour faire de bonnes choses. Et le Seigneur, quand il nous donne la repentance, c'est pour changer et accomplir de bonnes choses. Alléluia. Parce que la repentance n'est pas simplement un regret. C'est un regret, certes, mais qui est suivi par un changement de comportement. Et si ce n'est pas ça, il n'y a pas de changement. L'apôtre Paul disait même dans 2 Corinthiens 7, verset 9, « Je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance et que vous avez été attristé selon Dieu. » Amen. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors dis à ton voisin, change. Un citoyen du royaume des cieux est passé par une vraie repentance qui passe à l'action. Pour changer. Alors passons à notre dernier C. C'est croître, grandir en maturité, porter du fruit. La vraie repentance produit du fruit. Si, quand tu traînais ton péché, tu avais de mauvaises habitudes et de mauvais comportements avec un impact très négatif sur les personnes qui, sur toi et sur les personnes autour de toi, la vraie repentance, j'aimerais te dire, c'est tout bénéf. Parce que non seulement toi, tu vas en bénéficier, c'est l'accès au royaume des cieux, mais ceux qui sont autour de toi aussi vont en bénéficier. Amen. Plus de tension à la maison, plus de stress et toutes les maladies que ça génère aussi, plus d'angoisse aussi. Vous savez, j'imagine, alors même si c'est vrai que le texte des paraboles ne se prête pas à ce type de pensée, mais je me permets ce matin. Quand le fils rentre à la maison, alors que le père était toujours là, en train de l'attendre, quand le fils rentre à la maison, on peut bien imaginer que le père était libéré de toutes ses angoisses, n'est-ce pas? La repentance libère, et pas que toi, mais ceux qui sont autour de toi aussi. Amen. Et on peut s'imaginer aussi que David a dû investir mieux son rôle de père auprès de Salomon, avec plus de liberté, quand il a confessé son péché. Amen. Alors quand on choisit de se repentir, la maison, la famille en ressent, et tout le monde y gagne, les conjoints y gagnent, les enfants y gagnent, les collègues y gagnent, l'église y gagne. Amen. La vraie repentance, c'est produire du fruit digne de la repentance. C'est croître chaque jour. Il y a toujours des choses nouvelles à faire et à réaliser. Alors dis à ton voisin, croisse. Un citoyen du royaume des cieux est passé par une vraie repentance qui l'emmène à produire du fruit chaque jour. On reprend, c'est ça que c'est, constater, cesser, confesser, changer et croître. Amen. Voilà ce qu'il nous faut pour vivre dans le royaume. J'aimerais te dire que plus que jamais, tu as besoin de réactualiser ton identité. Plus que jamais, tu as besoin de renouveler ton identité afin qu'il n'y ait pas de contrefaçon, afin qu'on sache vraiment qui tu es. Vous savez, dans quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais notre frère Hans Peter devra se rendre dans un consulat suisse pour renouveler son passeport. Et il va devoir faire un long déplacement. Et il est pratiquement obligé de le faire, sinon il va bébé aller de ce côté. Vous savez qu'on continue à l'appeler aux Antilles, en Guyane, en France, en Suisse, et même en Suisse et aussi en Hollande, voilà, aux Pays-Bas, on continue à l'appeler. S'il ne fait pas ça, il va bébé aller de ce côté. Pourquoi il faut renouveler son passeport? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un passeport à vie, tout simplement? Parce que le document est fragile, même ma vie, vous avez vu. Le document est fragile et qu'à un moment donné, il risque de se dénaturer, donc il faut le changer. Parce qu'un passeport périmé ne prouve plus notre identité. Et que si on présente un passeport périmé dans un aéroport ou aux frontières, quelqu'un dit nous dévirer. Et aujourd'hui, il y a aussi le risque de contrefaçon. Et vous savez qu'on a bientôt une carte nationale d'identité nouvelle, n'est-ce pas? Biométrique, avec tous les éléments de puce électronique à l'intérieur. Tout ça pour assurer sa validité. Donc, il y a besoin de changer. Pour que tu n'aies pas de problème de citoyenneté et d'identité spirituelle à cause de l'usure du temps. Pour que ta foi ne devienne pas périmé, sans renouvellement, sans régénération, pour que tu ne risques pas de contrefaçon aussi. Et le sermon sur la montagne nous en parle, en long, en large, n'est-ce pas? J'aimerais te dire en ce matin, prends une décision avec le Seigneur. Tu sais où tu en es. Le Seigneur t'a parlé de différentes manières ce matin. Mais il est sûr que le royaume des cieux, nous pouvons en parler, nous pouvons dire beaucoup de choses, nous pouvons chanter. Nous pouvons faire un tas de choses. Mais ce royaume des cieux peut risquer d'être fermé pour nous si nous ne laissons pas le Seigneur toucher du doigt ce qu'il va dans le cœur. Si nous ne laissons pas le Seigneur nous interpeller précisément là où nous devons avancer. Parfois on reproche aux autres tout un tas de choses. Peut-être même qu'on reproche, ça peut être notre conjoint ou ça peut être, comment dire, l'église, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Le Seigneur veut te visiter. Il veut te visiter au point où tu pourras pointer ce qui ne va pas et tu pourras saisir et grandir et bénir les autres par une vraie repentance. Que le Seigneur nous puisse.